L'intitulé du programme de CJS, Éducation civique, juridique et sociale de première générale, Institutions et pratiques de la citoyenneté, est composé de 4 thèmes, dont un consacré au devoir du citoyen. Il s'intitule plus précisément « Exercice de la citoyenneté et devoir du citoyen », déclinant les devoirs fondamentaux du citoyen auxquels l'enseignant doit sensibiliser ses élèves, à savoir le devoir électoral, le devoir fiscal, le devoir de défense ou encore le devoir de solidarité. Un devoir n'apparaît pas encore dans cette liste, ce qui m'a amené, en tant qu'enseignante d'histoire géo et de CJS au lycée Montebello de Lille, à faire plancher les élèves de première ES2 sur le sujet suivant. Peut-on considérer le devoir de mémoire comme l'un des devoirs du citoyen ? C'est, les élèves vont vous expliquer pourquoi, la mémoire de la Shoah qui nous a prioritairement intéressés ici. Ou plutôt les mémoires, puisqu'il a été demandé aux élèves de réfléchir au travail de mémoire dans toute sa diversité. À travers l'art, que ce soit la littérature ou le cinéma, le travail de mémoire fait dans le cadre de la justice, mais aussi le travail de mémoire par les témoignages laissés par les lieux et apportés par les survivants. C'est par ce sujet que nous entamons cette émission avec Jessica, qui va expliquer dans quel cadre la visite d'Auschwitz-Birkenau a été possible.
La visite d'Auschwitz-Birkenau a été possible grâce au mémorial de la Shoah de Paris. La Fondation pour la mémoire de la Shoah a lancé un projet de voyage d'études à Auschwitz. Ainsi, notre lycée Montebello avons participé et avons été retenus, ce qui nous a donné la possibilité de faire ce voyage. Notre classe de première a pris l'avion le 11 janvier 2007 en direction de la Pologne à l'aéroport de Cracovie, pour ensuite aller à Birkenau. C'est le lieu où, selon le directeur du département d'histoire du musée d'Auschwitz, les morts avaient été au nombre de 1,1 million, plus précisément 960 000 juifs, 70 à 75 000 polonais, 21 000 tziganes et 15 000 prisonniers soviétiques. Cette visite nous a permis de marcher sur les mêmes chemins de déportés, de voir les mêmes paysages que des déportés ont vus pour la dernière fois et de visiter le plus grand cimetière du monde. Avant ce voyage, notre professeur d'histoire nous a donné des cours sur la Seconde Guerre mondiale, dans lesquels nous avons fait une étude sur les camps de concentration et d'extermination des déportés. Même si ces cours théoriques étaient moins réels que la visite du camp, ils nous ont permis de mieux maîtriser ce sujet pour la visite. Les cours nous ont en fait donné une idée sur le comportement nazi et sur le sort des déportés. Ces cours ont suscité en nous de la pitié, de la tristesse pour les déportés et du dégoût envers les nazis. Et en aucun cas, le devoir de mémoire nous a traversé l'esprit.
Salia, en quoi le fait d'aller sur les lieux vous a-t-il amené personnellement à faire un travail de mémoire ?
À notre arrivée en Pologne, nous sommes allés sur les chemins de fer qui menaient les déportés vers la mort. Puis nous sommes allés à Birkenau où nous sommes restés 4 heures. Nous avons été sur les rampes où les sélections à l'entrée du camp étaient faites, qui séparaient les personnes qui allaient au travail et les autres qui allaient aller à la mort. Nous avons marché sur les mêmes chemins que les déportés et après avoir fait le même chemin, nous avons été dans le bois de bouleau juste devant les chambres à gaz et c'est le lieu où les déportés se déshabillaient. Nous savions où nous allons alors que les déportés ne le savaient pas. Ils marchaient sans savoir où ils allaient et sans savoir qu'ils allaient mourir. Le fait d'avoir fait ce voyage nous a permis de mieux comprendre les conditions dans lesquelles déportés vivaient et ensuite mouraient. En faisant ce voyage, il y a moins de préjugés antiracistes et antisémites aussi. On s'imagine un peu ce qu'ils ont dû subir, l'angoisse et les peurs. On pense aux personnes qui ont dû lutter pour ne pas mourir, aux personnes qui ne savaient pas qu'elles allaient mourir. Les femmes, les enfants, les vieillards qui étaient là alors qu'ils n'avaient rien fait de mal, ils étaient seulement juifs ou autre chose. On ressent du mépris envers les nazis, la tristesse envers les déportés. C'est pour cela que l'on doit leur rendre hommage pour raconter au monde ce qu'ils ont subi. Ainsi, nous pouvons parler de mémoire, car il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sorties des camps, et il ne reste pas beaucoup, et c'est à nous de transmettre ce qu'ils ont vécu et de raconter à notre tour ce qui s'est passé là-bas.
Pour préparer ce voyage d'études, Madame Ida Grinspan, qui a été déportée à Auschwitz, est venue témoigner au lycée. Émilie, peux-tu nous faire un petit résumé sur l'histoire du témoignage des déportés depuis 1945 ?
Les déportés n'ont pas pu parler tout de suite quand ils sont revenus des camps. Ils ne pouvaient pas témoigner juste après la guerre parce que ils ne pouvaient pas cause des émotions. Et puis la société, elle n'était pas prête à entendre la parole des déportés. Après, il a fallu le procès Eichmann en 1960 pour que la parole puisse se libérer. Et donc, c'est à partir de là que les déportés ont réussi, se raconter leur vécu, et en mettant surtout l'accent sur l'héroïsme et l'horreur subie par les Juifs.
Nicolas, est-ce que tu peux expliquer pourquoi il a fallu si longtemps pour que la parole se libère ?
Quand la Seconde Guerre mondiale se termine, seulement 2500 déportés juifs français reviennent sur 75 000. Mais ces 2500 déportés sont noyés dans les autres, qui sont 40 000, ceux qui reviennent des camps, mais les autres camps politiques. Ils retrouvent un pays traumatisé par la défaite et l'occupation. La population essaye absolument d'oublier l'occupation et la défaite. Certains n'arrivent pas à s'exprimer, car ils n'arrivent pas à garder leurs sentiments pour eux. Mais pour essayer quand même de ne pas oublier ce qu'ils ont vécu, ils l'expriment en l'écrivant. Beaucoup se renferment dans le silence ou bien réservent leurs souvenirs aux camarades morts, les seuls qui arrivent à les écouter et qui les comprennent pour eux.
Ils disent, quel a été votre ressenti lorsque Ida est venue témoigner et au cours de ce témoignage ?
Nous avons ressenti des sentiments très forts. Nous avons ressenti de la tristesse, de la compassion. Nous avons eu plus de facilité à comprendre lorsque c'est raconté par une personne qui a subi les événements. Le témoignage nous a remis en question sur certaines choses, par exemple la violence. Ça nous a fait réfléchir avant d'agir brusquement. Ça nous a donné un nouveau regard sur les camps des nazis. Nous pensons que le témoignage oral est meilleur qu'un témoignage écrit, car c'est plus vivant, plus crédible, plus réaliste. Et étant spectateur d'un témoignage oral d'Ida Grinspan, nous avons beaucoup ressenti ses sentiments, ses émotions, ses souffrances dans sa voix. Ida Grinspan et les quelques anciens déportés n'ont qu'un seul objectif propre, c'est de faire passer un message qui est que des hommes peuvent déshumaniser d'autres hommes.
Merci.
Elle n'a jamais pleuré, pourtant malheur s'est acharné. La haine a déchiré tout ce auquel elle croyait. Elle n'a jamais pleuré, là où plus d'une aurait craqué. Son combat elle a mené pour enfin être libérée.
C'est l'histoire d'une enfant, d'une môme, d'une petite juive que l'horreur, la peur, les mots de la vie poursuivent. Mémoire de cette triste page de l'histoire, pour pleurer, pour y croire. Moi je dédie ce récit à toutes les victimes de l'espoir, celles qui ont pris cette douce un soir. Mais aussi pour celles qui ont vécu la victoire. Je rappe cette histoire, elle a existé et il ne faudra jamais l'oublier.
Elle n'a jamais pleuré, pas même en juillet 42 lorsque ses jolis petits yeux pleurent. Le cœur chaud sur cette feuille de papier glacé que maman est partie pour le cachot. Humiliée, arrêtée, embarquée pour Drancy. Station du triage de la honte, de la haine. C'est alors que noyée dans toute la peine du monde qu'elle prend conscience du danger. Mais ce n'est qu'une enfant de 12 ans qui espérera toujours retrouver sa maman. Voyage est cauchemardesque, un seul wagon ou presque pour un peuple gigantesque. Dans un mètre carré ou plus, cette fillette agenouillée, recroquevillée, n'a qu'une seule pensée, surveiller jalousement les provisions emportées pour sa maman, qu'elle pense sincèrement retrouver au camp. 3 jours et 3 nuits de voyage dans des conditions qui ennuagent l'orgueil. Première envie, première humiliation, première sensation de spoliation des droits de l'humain. Une dinette pour faire ses besoins, un bassin commun à la vie de chacun. On se retient comme on peut, mais n'est pas humain qui peut se retenir plus de 2 jours ou 3. C'est alors qu'on range l'amour de soi, qu'on se dit que la règle est la même pour tous. Que même si devant tout le monde ça fout la frousse, le pire est passé et que ça ira mieux demain.
Pas même lorsqu'enfin arrivé au bout de ce voyage de l'enfer, harcelé par les SS, la détresse se lit sans cesse, le froid agresse, transperce, blesse. C'est la rudesse de l'hiver, la rudesse de l'allemand, un univers troublant pour une si jeune enfant. Perdu dans ses pensées pour maman, son inconscient insouciant, un semblant de coup de main du destin lui évite le chemin du déclin, dicté par son instinct. C'est à la marche vers l'enfer qu'elle se joint, se détournant des camions d'illusion, en partance pour la perdition, puis entassée dans une pièce, avec vue sur l'enfer, contraint à se laisser faire. Les capots hurlent sans cesse, alors le corps nu, les regards blessent, le corps rasé, mentalement épuisé, complètement écrasé, puis finalement tatoué. C'est ainsi qu'ici, pendant des années, les droits de l'homme, on a bafoué.
Elle n'a jamais pleuré, pourtant malheur s'est acharné. La haine a déchiré tout ce auquel elle croyait. Elle n'a jamais pleuré, là où plus d'une aurait craqué. Son combat, elle a mené.
Elle n'a jamais pleuré, pas même lorsqu'elle a découvert le malheur profond de ce drame sans nom. C'est le combat pour la survie, je t'aime maman, un cri d'espoir pour celle qui souffre. Mais le désespoir la guette ici, seule la solidarité permet de sortir du gouffre. On partage ce qu'on peut, une ration, un sourire, une émotion pour tarir la résignation, cette inhibition pour la sélection. Celle-ci est fonction de multiples facteurs, les boutons, la toux, la maigreur. C'est la survie dans la peur, sous la menace de la fureur de voir son corps sans chaleur. Dans ce camp de la peur où se meurent des milliers de cœurs, des milliers de fleurs. Elle n'a pas succombé aux pleurs malgré cette odeur de frayeur, ce parfum de terreur. Devant cette vie qui semble sans valeur aux yeux du fureur, auteur de ce massacre, d'une horreur, d'une ampleur à faire pleurer les cœurs, à faire pleurer mon cœur. Avec une pensée pour les défunts, l'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. À force d'y croire, Ida a su forcer son destin. Je remercie Axel et Claudio, Paolo pour la mélodie, et tout particulièrement Ida pour avoir eu le courage de nous raconter son histoire. Composition Jean Basse.
Ce sont des élèves de lycée de la région parisienne qui ont écrit cette chanson à Ida. Ida Grinspan ne fait pas que témoigner dans les collèges et les lycées. Elle a écrit un ouvrage avec Bertrand Poirot-Delpech intitulé « J'ai pas pleuré ». Je voudrais justement que l'on en vienne à la mémoire de la Shoah à travers la littérature. Alors Priscilla, tu vas nous raconter l'histoire du livre écrit par Ida.
Alors Ida Grinspan est née en France de, Paris, de parents juifs polonais. Elle a 14 ans quand elle est déportée à Auschwitz en février 1944. Elle y tiendra 17 mois, dont 2 hivers. Ida sait qu'elle a une mission sacrée. Ses camarades lui ont confié au camp avant de mourir. Si tu rentres, il faudra leur dire. On ne te croira pas, mais il faudra leur dire. La première fois qu'Ida Grinspan retourne à Auschwitz en 1988, elle fait la rencontre de Bertrand Poirot-Delpech, qui faisait un reportage pour le journal Le Monde. Depuis, ils se sont souvent revus. Lorsqu'Ida a reçu des nouvelles de Vanda, c'était l'infirmière qui lui avait sauvé la vie lors de la marche de la mort, elle a appelé Bertrand et lui a dit « Vanda est vivante ». Seulement, elle n'a pas pu la revoir car elle est décédée quelques heures plus tard. De ce fait, Ida dit que le temps travaille contre le souvenir. Son âge aussi, 72 ans, l'a incité à écrire, noir sur blanc, son témoignage qu'elle racontait seulement devant des milliers de scolaires. Elle n'était pas en mesure d'écrire toute seule ses souvenirs. Donc Bertrand est également né en 1929 et il a vécu les choses mais différemment. Une camarade juive de sa classe a été embarquée devant ses yeux en pleine classe. Et à la libération des camps, il était là pour aider ceux qui y revenaient. Il s'est senti concerné car sa fille et ses petits-enfants portent un nom qui, à cette époque-là, les aurait inquiétés. Bertrand Poirot-Delpech est mort en 2006. Son roman « J'ai pas pleuré » a été écrit à quatre mains par Ida et son ami Bertrand Poirot-Delpech. Alors « J'ai pas pleuré », le titre du livre a été trouvé lorsque Bertrand lui posait des questions sur ce qu'elle a vécu au camp. Elle lui répondait toujours « J'ai pas pleuré ». comme lorsqu'elle a été arrêtée par 3 gendarmes, ou encore quand elle a été enfermée dans un wagon de marchandises, elle n'a pas pleuré.
Un autre livre, Si c'est un homme, de Primo Levi, est très souvent étudié au lycée. Explique-nous, Gwendoline, en quoi ce livre est essentiel pour le devoir de mémoire.
Le livre de Primo Levi, il a trois intentions. Une intention pédagogique pour le devoir de mémoire, politique pour lutter contre l'oubli et morale pour lutter contre le mensonge. Primo Levi a dit que nous le voulions ou non, nous sommes des témoins et nous en portons le poids. Au camp, il observait tout, il se souvenait de tout et il voulait raconter tout. Comme la promiscuité des blocs dortoirs, les camarades qu'on y découvre morts à l'aube, de mort ou de faim ou de froid. Dans son livre, il n'essaie pas de faire pitié, il n'évoque pas de chiffres, ni des faits dont il n'a pas eu connaissance en tant que témoin. Le devoir de mémoire n'a de sens que s'il va de pair avec un devoir de vérité, une volonté d'apprendre. Il n'a de sens aussi que s'il est universel. Il se pose comme un devoir moral de témoignage et de transmission. Primo Levi a fait de son livre un projet pédagogique, c'est-à-dire qu'il essayait de faire en sorte que tous les élèves lisent et aiment son livre. Il a écrit la scrupuleuse vérité. Il veille à ne pas agresser inutilement la sensibilité des gens. Il a peut-être choisi comme médiateur entre les élèves et le monde du lager. Pour Primo Levi, avoir survécu à Auschwitz impose le témoignage. C'est même le seul sens possible de la survie que de témoigner jusqu'à conduire certains à penser que c'est la Providence même qui a permis la survie de ceux qu'elle charge ainsi de témoigner. Le but de cette écriture, c'est de transmettre pour toujours le souvenir de ceux qui ont été engloutis et qui, sans l'écrivain, seraient morts à jamais. Levi se considérait comme un dépositaire d'une expérience. Parler apparaît pour lui comme un devoir. Pour lui, l'événement des camps est exemplaire. C'est arrivé et tout cela peut arriver de nouveau. Si c'est un homme, est une œuvre terrible. Elle est le témoignage le plus cru, le plus limpide, par sa précision, sa simplicité, sa lucidité sur les horreurs de l'Holocauste.
Je voudrais savoir maintenant en quoi la lecture du livre d'Ida ou de Primo Levi vous a amené personnellement à faire un travail de mémoire.
Moi, quand on a beaucoup étudié en classe, et il y a des choses qu'on savait pas en fait. Et quand on lit les livres, ou même quand on a les témoignages oraux, on a plus de détails en fait. C'est plus. Enfin, quand c'est une personne qui le dit d'elle-même, enfin, la personne qui l'a vécu, je trouve ça plus difficile à croire. Enfin, c'est plus réel que quand on voit ça dans un livre par rapport à un cours, on n'y croit pas forcément.
Et toi, Priscilla ?
Moi, ça m'a permis d'avoir des détails plus approfondis. Qu'elle pouvait pas forcément dire à l'oral, parce qu'il y a des choses qu'on dit plus facilement à l'écrit qu'à l'oral. Et ce qu'on apprend dans des livres d'histoire, c'est quelque chose que tout le monde sait et que par exemple Ida ou Primo Levi ont vécu mais différemment. Et d'avoir lu leurs livres, c'est de voir les choses mais différemment aussi.
Merci. L'écriture sur la Shoah a pris d'autres formes. Nadia et Amel ont lu le roman autobiographique de Philippe Grimbert, Le Secret. Elles ont par ailleurs rencontré Philippe Grimbert au lycée. Raconte-nous, Nadia, l'histoire de Philippe Grimbert.
Donc, Philippe Grimbert a commencé d'abord son parcours en faisant une année de médecine, mais c'était une année de formation théorique et ça ne lui a pas du tout plu, puisque lui préférait travailler réellement dans un hôpital ou être au chevet des malades. Donc, il a arrêté. Il s'est orienté vers la psychologie et la psychanalyse. Et en fait, puisque depuis sa terminale, son année de terminale où il avait étudié la philosophie, ça l'avait beaucoup intéressé. Il était très intéressé notamment par Freud. Et il voulait savoir comment vivent les hommes et comment ils se comportent ensemble. Donc Philippe Grimbert est né à Nanterre en 1968. Il a été, c'était pendant la période des manifestations et des événements de mai 68. Depuis son enfance, il a toujours été très attiré vers l'écriture et ça a commencé dès l'école primaire où il a fallu rédiger des rédactions ou des petits travaux d'écriture. Il était très très intéressé aussi par la musique, tout ce qui était mélodie. Il a une grande ambition, c'était d'écrire. Il voulait écrire sur tous les sujets, n'importe quel sujet, les sujets tabous, les sujets de tous les sujets dont on ne voulait pas parler, le sexe, la drogue. Et il s'est lancé. Mais il avait commencé à écrire un livre. Il l'a envoyé à une maison d'édition, mais malheureusement, la réponse fut négative. Il avait reçu, donc votre livre est très intéressant, mais malheureusement, on ne pourra pas le publier. Donc, il s'est orienté donc vers la psychanalyse. Il est devenu psychanalyste. Il travaille avec des enfants autistes. Il a d'ailleurs fait plusieurs essais en psychanalyse, notamment un sur les stéréotypes. Les psychanalystes sont aussi tarés que leurs patients. Et un autre, il n'y a pas de fumée sans Freud. Il combine aussi sa passion en psychanalyse et sa passion avec la musique. Puis à la trentaine, un événement qui va marquer justement son travail d'écriture. Il va passer devant un petit magasin, une petite boutique de prêt-à-porter qui s'appelait Poème. Et il va accrocher sur une petite robe, une robe d'enfant couleur pastel. Et il va rester figé devant cette robe et va la regarder pendant des heures. Il va revenir pour la regarder et il va vouloir l'acheter. Mais il va trouver cet acte vraiment stupide puisque ça, il n'y a personne qui pourrait porter cette robe. Et il a une fille qui est adolescente, donc cette robe ne lui servait à rien. Et en rentrant chez lui, il s'est posé la question à savoir s'il avait acheté, qu'est-ce qui serait passé. Donc c'était que si j'avais acheté... Plein de questions lui sont venues à l'esprit. Et à partir de là, il s'est lancé justement dans cette écriture du livre. Et il nous a dit, quand on l'a vu, que le fil est venu tout seul. C'est comme si le livre lui avait été dicté. Et donc, après 2 mois d'écriture justement sur cette robe, la petite robe de Paul... Sans grande conviction, puisque la première fois, ça avait été un échec, il envoie cette œuvre à une maison d'édition, il l'envoie chez Grasset. Et là, succès total, la maison d'édition est très intéressée par ce livre. Et il allait être imprimé plus tard à Chambéry. Donc dans la lancée, il voulait rester l'homme d'un roman. Il s'est dit j'ai eu un succès, j'ai eu un livre qui a bien plu, donc je vais m'arrêter là. Mais au fil du temps, lui est apparue l'idée d'écrire sur sa vie. Il y avait d'autres d'écrire sur sa vie et faire son autobiographie, puisqu'il y avait la Deuxième Guerre mondiale qui avait marqué sa famille et son histoire. Il s'est dit qu'il y avait plein d'autres gens qui avaient écrit déjà sur le thème, donc il ne voyait donc pas la grande utilité de le faire. Mais quand il a commencé son écrit, il a su faire la différence grâce à un travail bien fait, un travail romancé sur ce livre et sur l'histoire. C'est ce livre qui s'intitule Un secret, a été donc un best-seller. Je le dis malgré que je sais qu'il n'aime pas beaucoup ce terme, parce que quand on l'avait rencontré, il nous avait dit que c'était un terme qui, pour lui, était trop commercial. Il préférait à la rigueur un terme comme « best reading », puisque pour lui, ce qui l'intéresse, c'est si les gens aiment, ont lu, et si son livre a plu. Après ça, il a eu le prix Goncourt des lycéens en 2004, chose qu'il ne s'attendait pas du tout, puis il ne s'attendait pas du tout que ce livre plaise aux jeunes. Donc c'était la surprise totale. Et en 2007, donc en ce moment, il est sur le tournage du film Un secret, qui sera donc avec le grand réalisateur français Claude Miller, et qui sera joué également avec l'un des comédiens, Patrick Bruel et Cécile de France. Et normalement, il sortirait en septembre.
Alors, on vient un peu à ce livre. Si tu veux bien, Amel, tu peux nous raconter un peu l'histoire et préciser la part de l'histoire et de la fiction dans ce roman.
Alors, dans Un secret, Philippe Grimbert a changé les prénoms. C'était en fait une barrière entre leur intimité et la littérature. Par exemple, Louise est la seule qui n'a pas existé. Et si les lecteurs l'aiment, pour Philippe, c'est une réussite littéraire. Louise, c'est en fait ce qu'on appelle un patchwork, un mélange de plusieurs personnes qui ont réellement existé. Les rendez-vous avec Louis sont un peu comme des séances chez un psy. La psychanalyse délivre par la parole. Petit clin d'œil à la profession de Philippe Grimbert.
Nadia, tu peux nous raconter un peu l'histoire du livre Un secret ?
Donc, un secret. Donc, le titre, un secret, ça vient d'un secret de famille. Un secret de famille dont Grimbert a eu la connaissance très tard. Et c'est pour ça qu'il a d'ailleurs écrit ce récit dans le tard. Donc, Philippe Grimbert, ses parents ont vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été victimes de la Shoah. Et en fait, Philippe Grimbert est présenté comme un enfant très mal dans sa peau, qui a beaucoup de mal-être, qui est un enfant très très instable, qui est victime de beaucoup de maladies. Et à côté de ça, on a ses parents, des grands sportifs. Donc Philippe Grimbert qui s'est toujours inventé un frère imaginaire avec qui il se bat, un frère plus fort que lui, mieux que lui, plus sportif, qui correspondait plus à ses parents que lui ne correspondait. Et au fil du temps, au fil du livre, il découvre avec Louise, Anna et que Simon, ce frère inventé, a réellement existé. Et qu'il a réellement eu un frère. Un jour, par sa voisine, une amie de la famille, donc Louise, on lui a raconté que l'histoire de sa famille et le secret qui avait été entretenu de génération en génération, à savoir que Anna, la mère de Simon, son frère, avait été déportée dans un camp de concentration à la suite d'une interpellation par la police d'Anna et de Simon dans un café. Où Anna avait présenté ses vrais papiers sans faire exprès aux policiers, même si Philippe Grimbert pense qu'Anna, dans un sens, peut-être qu'elle aurait fait exprès de donner ses faux papiers, ses vrais papiers aux policiers. Et pense que ce n'était pas juste un hasard et peut-être que Anna avait réellement fait exprès tout ça et que c'était quelque chose qu'elle voulait profondément, enfin qu'elle voulait. Bon, on va découvrir que le père de Philippe Grimbert et sa belle-sœur, ils vont se marier, ils vont finir ensemble et qu'ils avaient toujours été attirés l'un vers l'autre. Et c'est comme si Anna donnait sa place à Tania.
Alors peut-être que tu peux nous préciser, Amel, la part de fiction et la part d'histoire dans ce roman.
Mais en fait, Philippe Grimbert, il a changé les prénoms dans ce livre. C'est un peu une barrière entre leur intimité et la littérature. Par exemple, Louise est la seule qui n'a pas existé. Et si les lecteurs l'aiment, pour Philippe Grimbert, c'est une réussite littéraire. Louise est en fait ce qu'on appelle un patchwork, un mélange de plusieurs personnes qui ont réellement existé. Le corps d'une infirmière, la gaffe d'un cousin, et les manies alcool-tabac d'une cousine. Les rendez-vous avec Louise sont un peu comme des séances chez un psy. La psychanalyse délivre par la parole. Petit clin d'œil à la profession de Philippe Grimbert. Ses parents étaient beaux et sportifs, mais pas de grands champions dans la réalité. Ils avaient un grand souci de l'apparence. Son narrateur est présenté comme chétif, malingre, ce que Philippe Grimbert n'était pas. Pour accentuer le contraste avec les parents et le frère, montrer le poids de ce frère. Simon et Anna sont vraiment morts à Auschwitz, mais le suicide de Anna et Simon avec les papiers est un peu une fiction. D'après ce qu'on lui a dit, Anna aurait oublié ses faux papiers, mais Philippe Grimbert n'y croit pas. Pour lui, Anna aurait fait ce qu'on appelle un désir profond, un acte manqué, quand on refoule un désir dans l'inconscient et qu'il ressort presque involontairement. C'est un peu le même principe pour les lapsus. Dans la fiction, Anna donne carrément ses vrais papiers. Elle se suicide avec Simon. Acte grand. Ses parents se sont bien suicidés ensemble, mais pas de cette manière en réalité. Le plongeon dans le vide, c'est de la beauté littéraire, comme un retour à la source de leur amour quand Maxime regardait Tania plonger à la piscine. Par contre, la vraie manière, les regards, la raconter réellement serait comme les trahir. C'est pour toutes ces raisons qu'il a ajouté de la fiction dans son roman.
Faïssal et Jérémy se sont intéressés à une autre forme d'écriture sur la Shoah. Ils ont travaillé en effet sur la bande dessinée de Spiegelman, Maus. Pourquoi, tu peux nous en parler peut-être, Faïssal, Spiegelman a-t-il fait ce choix d'écriture et quelle est l'origine de ce projet?
Pour Maus, cela part d'une entreprise personnelle d'Art Spiegelman qui avait le besoin d'en savoir plus sur l'histoire de sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les camps de concentration. Il y retrace donc la vie de sa famille avant sa naissance en Pologne, puis en fuite après l'invasion de la Pologne par l'armée allemande, puis l'enfermement dans les camps de concentration et la vie après ces camps qui sera à jamais différente et marquée d'horreur. Ce travail a été effectué grâce aux entrevues que l'auteur a eues avec son père. Celui-ci lui a raconté ses aventures et les sentiments qu'il ressentait à l'époque. Art Spiegelman a entrepris l'écriture de son œuvre, donc la bande dessinée, par pur besoin personnel et pour laisser une trace de la vie de sa famille dans l'histoire. Le choix d'exprimer cela sous la forme d'une bande dessinée a été fait pour se démarquer des autres et peut-être pour exprimer la tristesse et l'horreur par des dessins et non pas par des mots qui est fait plus souvent. Il s'exprime également à travers le zoomorphisme, puisque dans ce livre, chaque homme est représenté par un animal pour montrer la bêtise et la stupidité et donc l'animalité des hommes à cette époque. Ainsi, les Allemands sont des chats, chassant les souris, représentant les Juifs. Les Polonais sont représentés sous la forme de cochons, les Tziganes sous forme de libellules, les Français sous la forme de grenouilles, les Anglais sous forme de poissons, et les Américains sous forme de chiens, et les Suédois sous forme de cerfs. L'impact sur la population a été important, notamment car Maus a reçu le prix Pulitzer en 1992, et donc a une renommée importante dans le monde de la littérature. Toutes les catégories de personnes sont concernées, mais peut-être un peu plus les jeunes, ce qui expliquerait la forme de la bande dessinée, chargée de véhiculer ces faits pour que la mémoire reste et que l'on n'oublie jamais cette sombre partie de notre histoire. Avec le succès qu'a connu ce livre, l'objectif de sensibilisation de la population à la mémoire de la Shoah a été obligatoirement atteint. Ce livre n'a pas été particulièrement à la source de débats, mais n'a évidemment pas éradiqué les négationnistes qui ne croiront pas en cette histoire, pas plus qu'à une autre faisant référence au génocide juif qui a pourtant malheureusement bel et bien eu lieu.
Et Jérémy, tu peux nous dire en quoi la lecture de cette bande dessinée t'a amené personnellement à faire un travail de mémoire ?
Eh bien, en fait, le format de cet ouvrage, qui est une bande dessinée, nous a indéniablement mené à chercher plus facilement des faits sur ce qui s'est passé tout au long de l'histoire. Le format exotérique que représente la bande dessinée, qui permet une sensibilisation plus large, une influence plus large, a été pour nous un facteur essentiel. La BD nous a mené plus facilement en fait vers ces tristes faits historiques. En outre, le travail plus large qu'on a fait tout au long de l'année, on a visité le mémorial parisien de la Shoah, on a été à Auschwitz en Pologne, dans le fameux camp, et tout ce travail tout au long de l'année qui nous a encore plus précisé sur ce sujet, toutes ces lectures, les visites, nous a permis d'effectuer ce travail de mémoire et il trouve son aboutissement aujourd'hui dans cette expérience radiophonique.
Merci.
Écrire mes mémoires avec de l'encre noire sur un papier lilas que je n'enverrai pas. Parler des jours de gloire, des soirs de désespoir et boire ma vie jusqu'à l'oubli. Mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens. Des matins pâles, tu me fais mal quand tu ramènes vers moi ceux qui ne sont plus là. Dans ma vie de recluse, je me revois parfois sur la scène de l'écluse, faisant mes premiers pas. Dans mes nuits sans sommeil, ma mémoire apparaît sur un passé soleil, au fond rouge-vermeil. Ma mémoire me diffuse des images confuses et tes visages, faux visages, mirages. Mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens. Au bout de mes doigts, c'est fou que je vois le mirage. Oh, ne partez pas, ne craignez rien. Je suis restée l'étrangère que vous aimiez naguère. Ce fut un long détour avant que je revienne. J'ai bouclé mon parcours, j'ai traversé la Seine. Ce fut un long détour, mais chanter me ramène à deux pas de l'écluse, à deux pas de la Seine, où chante ma mémoire.
Le cinéma a joué un rôle important dans la libération de la parole des survivants. Ainsi, la projection du film Holocaust en 1978-79 enclenche-t-elle par exemple de nombreux débats. On va donc aborder le thème de la mémoire à travers le cinéma. Tu as travaillé, Rana, sur le film de Claude Lanzmann, Shoah. Présente cette œuvre brièvement.
Je vais tout d'abord présenter Claude Lanzmann. C'est un réalisateur, scénariste et producteur français, né le 27 novembre 1925 à Paris. Ses grands-parents sont des immigrés juifs de l'Europe de l'Est. Ils ont fui les persécutions, la misère. Pendant la Première Guerre mondiale, ils vivent à Paris et Claude Lanzmann voit la montée de l'antisémitisme. Entre 1976 et 1981, autrement dit 11 ans, 350 heures de films ont été tournées. Durant 10 campagnes de tournage, l'écrivain et cinéaste Claude Lanzmann a méthodiquement identifier les lieux et écouter victimes, criminels et témoins. Il pose des questions qui font mal à ses interlocuteurs et il ne lâche pas. Il n'a jamais aimé le mot holocauste car il a une connotation sacrificielle. Il dit qu'il ne voit pas qui sacrifie quoi et à qui. Pendant les 11 années de travail, le film n'a pas eu de titre, tout simplement parce qu'il n'a pas le nom pour cela. L'expression « génocide » n'est pas un nom. Elle ne dit rien sur la façon dont les choses se sont passées, rien sur l'unicité. Quant à la solution finale, c'est une invention allemande qui masque la vérité. Finalement, c'est le titre Shoah qui a été choisi. En France, d'abord sorti en salle, le film Shoah fut programmé en 1987 par TF1, en 1993 sur France 2, puis sur Arte au début de l'année 1998. Shoah a été diffusé en version plus ou moins courte sur les télévisions et dans les cinémas du monde entier, provoquant de grands débats, notamment en Pologne. Shoah repose en grande partie sur la notion d'identification, car il est essentiel au projet du film que le spectateur devienne celui qui va mourir. Pour Claude Lanzmann, il s'agit de donner à vivre, à voir, puis de donner à comprendre. Ainsi, dans la scène de la locomotive avec Henryk Gorski, la caméra est placée de telle façon que le spectateur découvre le panneau de Treblinka avec les yeux des Juifs à l'issue de leur voyage. mais la caméra s'interdit à tout point de vue centré sur un seul personnage. Elle peut être un survivant, elle est parfois Claude Lanzmann lui-même, en tant qu'intervieweur au cours des entretiens, ou bien en tant que metteur en scène, en représentation. Showa, en tant que mouvement cinématographique, s'organise d'abord à partir de travelling. Avec les images de convois, les trains et des camions, de voies ferrées et de routes, des rampes de camps menant à la mort, nous refaisons le trajet, mais aussi nous revivons la durée interminable du voyage. Avec ces points de vue multiples, l'enjeu du film se donne à voir, manifester le double échec des nazis qui voulaient exterminer les juifs et détruire toute race et matérialiser la volonté des juifs de témoigner.
Et Bertrand et Valentin, vous avez travaillé sur la liste de Schindler de Spielberg. Quelle est la part d'histoire dans le film ?
La part d'histoire dans ce film est le fait que l'histoire relatée est l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui a sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale 1100 juifs. Donc on peut dire que c'est injuste.
Il faut savoir aussi que le film a été proposé à plusieurs réalisateurs. Dans les années 80, à Martin Scorsese, mais celui-ci a refusé car il pensait que seul un réalisateur juif pouvait en être capable. Le projet fut donc proposé par la suite à Roman Polanski, qui lui aussi refusa parce qu'il trouvait l'histoire trop proche de la sienne. Donc il a été accepté par Steven Spielberg. Le film est tourné en grande partie en noir et blanc, à part 5 scènes, la cérémonie du Shabbat, le manteau rouge de la petite fille, 3 scènes, et la tombe d'Oskar Schindler à la fin du film.
On peut donc penser que les scènes en noir et blanc sont donc les scènes d'histoire, alors que les scènes en couleur sont des scènes de fiction apportées par Steven Spielberg.
C'est un film adapté du roman de Thomas Kennedy, qui porte le même nom que le film. Il raconte l'histoire vraie d'Oskar Schindler. Il a été filmé en grande partie en noir et blanc et en Pologne. Le but du film n'est pas de minimiser les travers, ni de montrer la grandeur de cet invraisemblable héros, mais bien de montrer le triomphe de l'esprit humain sur ce désastre pour l'humanité.
Pour ce film, Spielberg s'est fié au témoignage personnel des témoins de l'Holocauste, qui sont venus en nombre durant le tournage pour que le degré de réalité soit le plus précis possible.
Donc Spielberg a fait un réel travail de recherche et de mémoire, car en plus du film déjà émouvant, les témoignages qui sont dans les suppléments le sont beaucoup plus, parce qu'on a des témoignages en temps réel. Le film reprend les plus petits détails qui ont été tirés des témoignages des victimes de l'Holocauste, enfin des survivants, comme par exemple quand le commandant du camp de concentration de Plachau tirait de son balcon les déportés au fusil. Spielberg a effectivement fait un travail de mémoire énorme parce qu'il il a travaillé en partenariat avec la Fondation Shoah et s'est fié à beaucoup de témoignages archivés et des déclarations des témoins de l'Holocauste.
D'un côté, Steven Spielberg, malgré tous les témoignages, il ne respecte pas tout puisqu'il a tenu fortement la représentation de l'atrocité. Dans ce film, les détenus ne sont pas maigres et ils ont des vêtements en bon état. Ce n'est pas l'atrocité réelle de l'époque.
Le but du film est de montrer et il est rappelé à plusieurs reprises dans celui-ci, qu'un homme sans armes, sans matériel, peut faire la différence. L'humanité qu'a eu Oskar Schindler fut remerciée par les sauvés de Schindler, et on le voit lors de la dernière scène du film, par une tradition qui consiste à mettre une pierre sur la tombe et à former une sorte de pyramide. Et Oskar Schindler fut récompensé par les gens qu'il a sauvés par un anneau d'or où il était marqué en hébreu « Celui qui sauve une vie sauve le monde entier ».
Alors en quoi le fait de voir ces films vous a-t-il amené personnellement à faire un travail de mémoire ?
Ce film nous a poussé à faire un travail de mémoire parce que, pour commencer, le fait de regarder ce film, il est basé sur des faits réels, donc c'est déjà une prise de conscience.
Le fait d'avoir vu le film Shoah, en fait, c'était émouvant, surtout comme la scène avec le coiffeur. Lorsque on voit que le personnage, Il raconte quand il devait faire entrer sa femme et sa fille dans les chambres à gaz sans pouvoir leur dire qu'elles vont mourir. Et c'était quand même un film difficile pour lui.
Spielberg le dit dans les témoignages avant de présenter Les Voix de la Liste, qui est le supplément DVD, qui dit qu'il faut prendre conscience des faits, et les témoignages nous y aident, pour qu'à l'avenir, ce genre de choses n'arrive plus, parce que c'est vraiment invraisemblable de voir ce qui a pu se produire par la volonté d'un homme, suivi par beaucoup d'autres, grâce à la propagande, etc.
La photographie est également un élément important de la construction de la mémoire. Thomas, quelles sont les photographies des camps, notamment d'Auschwitz, qui existent ?
Alors, il nous reste des photos prises par les SS dans les camps de concentration, ainsi que 3 photos prises par des Sonderkommando qui les ont ensuite enterrées pour qu'on les retrouve. Ces 3 photos sont exposées à Auschwitz, près d'un crématoire, et aussi au mémorial de la Shoah. Et il nous reste également l'album d'Auschwitz que Lily Jacob a retrouvé au camp de concentration de Dora, alors que les Américains venaient la libérer. Sur cet album, elle a retrouvé des photos de sa famille et elle a vu également des photos d'elle tondue. Elle a ensuite gardé cet album, c'est la seule chose qui lui est restée de sa famille, de son passé à Auschwitz. L'album a été édité en 1980 par les Klarsfeld, puis en 1981, une réédition avec des commentaires d'historiens.
Kevin, pourquoi ces photographies sont-elles essentielles pour la mémoire de la Shoah ?
C'est très simple, puisque les photographies, ça différencie de tous les textes, ou les témoignages qui n'ont pas pu être faits par les victimes, les déportés, puisque dû au choc, ils n'ont pas pu raconter ce qu'ils ont vu, ou ils n'ont pas eu envie surtout de re-raconter. Donc les photos, ils témoignent de tous ces actes, et c'est beaucoup plus facile à faire circuler des photos que des longs textes ou des témoignages. Comme l'a dit un ami à moi, quand les paroles sont vont, les images restent.
Certaines images peuvent choquer, mais elles sont surtout émouvantes. Par exemple, celles des photos où on montre les déportés, on voit sur leur visage qu'ils ne savaient pas encore ce qui allait leur arriver. Quand on regarde l'album d'Auschwitz, on ne montre pas les morts, mais encore les vivants. Et en contemplant ces photographies, nous ne pouvons pas... Il faut être frappé par ces gestes familiers, donc les gens qui... Des gestes d'angoisse et d'amour, des gestes des enfants, des mères. Et on voit aussi des femmes alignées devant l'objectif, et toutes baissent les yeux. Sur une autre photographie, alors qu'on les emmène au camp des femmes, dans leur uniforme dérisoire, sans foulard ni rien, on voit 2 femmes avec le corps brisé par le travail qui s'enlacent. Donc on peut voir qu'ils conservaient quand même une dernière chaleur, une solidarité, un signe d'humanité représenté dans les photos.
Et finalement, qu'est-ce que vous diriez ? En quoi, de voir ces photographies, vous a-t-elle amené personnellement à faire un travail de mémoire ?
Les images sont une preuve visuelle, elles ne peuvent pas mentir. Elles représentent réellement la cruauté des faits. Elles sont plus fortes que des mots. Elles restent gravées en mémoire. Elles nous permettent de nous rendre compte de l'atrocité des faits.
Elles perdurent dans le temps aussi, pour transmettre aux générations suivantes. Elles sont neutres, elles montrent les faits tels qu'ils sont. Ce n'est pas des textes interprétés. Et ça enlève l'anonymat. Donc, quand on retrouve des photos, on peut les montrer aux proches pour qu'ils puissent retrouver des gens de leur famille ou des amis qui sont partis dans les camps. Et le monde aurait du mal à croire ce qu'ils avaient vu, donc les photos permettent un témoignage visuel.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier et tenaient qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
La libération de la parole des témoins s'explique également par l'ouverture de procès, comme celui de Klaus Barbie en 1983, abordant le thème de la mémoire de la Shoah et de la justice. Ces procès ont pu être intentés pour deux raisons. Un droit international était apparu d'une part, et des nazis ont été traqués d'autre part. Maxime, pourquoi le procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale est-il très important pour l'évolution du droit international ?
Le procès de Nuremberg est très important car il a apporté le concept de crime contre l'humanité. C'est la première fois que cette notion est apparue dans les législations. C'est un concept ancien, mais il apparaît pour la première fois en tant que notion proprement juridique en 1945, lors de la mise en place de ce tribunal. Cette apparition est la conséquence de la volonté de juger les responsables des atrocités exceptionnelles commises pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout la Shoah. Il est appliqué pour la première fois lors de ce procès, donc le procès de Nuremberg, en 1945. Durant ce procès est mise en place la définition de crime contre l'humanité, qui est considérée comme crime contre l'humanité dans certains contextes, comme assassinat, extermination, réduction en esclavage ou déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile, mais aussi les persécutions pour des motifs radicaux ou religieux. Peu à peu, la notion de crime contre l'humanité s'inscrit dans la législation internationale. Une résolution des Nations Unies est ainsi votée en 1948.
Alexandre, comment a évolué ce droit par la suite ?
Malgré des débuts modestes, peu à peu s'inscrit une définition précise. Une résolution des Nations Unies est ainsi votée en 1948. La définition s'élargit en 1973 avec la qualification de crime contre l'humanité pour l'apartheid, la séparation blanc et noir en Afrique du Sud. Plus tard, il y a la création de la Cour pénale internationale en 1998 pour la guerre de la Yougoslavie. C'est la première Cour pénale internationale permanente. Son siège se situe à La Haye, aux Pays-Bas. La Cour a été créée par le traité de Rome, par une conférence diplomatique des Nations Unies. Elle a une existence légale depuis 2002. Au 1er janvier 2007, 104 États ont ratifié le statut de Rome et acceptent l'autorité de la CPI. Il faut savoir que la Russie et les États-Unis ne font pas partie de la CPI. La principale raison de ces États est la crainte de voir la CPI être utilisée contre eux à des fins politiques. Les États-Unis pensent qu'ils sont particulièrement vulnérables du fait de la forte présence de leurs troupes à l'étranger. Le but de la CPI est de promouvoir le droit international et son mandat est de juger les individus et non les États. Elle n'est compétente que pour les crimes les plus graves commis par des individus, génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité.
Avez-vous des exemples d'application de la Cour internationale ?
On a l'exemple du Rwanda en 1995, où le tribunal pénal international a permis la condamnation de nombreuses personnes impliquées dans le génocide. Puis aujourd'hui, l'exemple du Darfour.
Valentin, tu nous racontes la traque des nazis menée par Simon Wiesenthal ou par Serge et Beate Klarsfeld.
Bon, tout d'abord, la traque des nazis a pour but de retrouver tous les criminels de guerre qui sont échappés suite à la chute du Troisième Reich pour qu'ils soient jugés devant un tribunal. C'est important parce que c'est pas une traque dans un but seulement les tuer, c'est qu'ils soient vraiment jugés pour qu'on les mette devant leurs crimes qu'ils ont commis. Donc tout d'abord, le contexte de cette traque, elle se fait au sortir de la guerre. Il y a un sentiment de vengeance qui submergeait dans les pays libérés. Et alors les alliés qui ont gagné la guerre, ils ont mis tout d'abord un procès en place, le procès de Nuremberg en 45. C'est condamné les principaux responsables nazis. Mais au début des années 60, l'Allemagne veut quand même oublier cette période assez noire quand même de son histoire. Beaucoup d'anciens nazis sont quand même passés à travers les mailles du filet, quoi. Ils sont arrivés quand même à échapper aux sanctions qu'on leur infligeait. Et donc cette traque, c'est surtout trois personnages qui ont lancé cette traque. Donc on retrouve le couple Klarsfeld, Serge et Beate. Serge, c'était un fils d'un déporté qui était assassiné dans un camp de concentration, et sa femme, Beate, c'était une Allemande qui n'était pas juif. Et ils se lancèrent tout simplement dans plus de 30 ans de traque des nazis. Ils sont arrivés à démasquer des hauts responsables nazis, comme le chef SS Hagen, qui était devenu entre-temps un directeur commercial. Ensuite, Lischka, un des dirigeants de la Gestapo. Heinrichson, le gardien du camp de Drancy, qui était devenu maire d'une ville en Allemagne, en Bavière. Barbie, c'est le chef de la Gestapo, et le préfet Papon, c'était les plus importants. Autre que le couple Klarsfeld, il y a aussi Simon Wiesenthal, qui lui était vraiment un rescapé des camps, il a directement vécu cette période. Donc alors Simon Wiesenthal, rescapé des camps, il est à la recherche de ses bourreaux, de son capot, celui qui dirigeait son bâtiment où il dormait, jusqu'à Mengele, le médecin fou d'Auschwitz, et Eichmann, l'organisateur de la solution finale. Il était très connu pour l'arrestation d'Adolf Eichmann, le même qui organisait la solution finale en Argentine. Et il a participé à l'arrestation de 1100 autres criminels de guerre nazis. Donc pour son œuvre, en 1977, il fonda le centre Simon Wiesenthal, qui est dédié au souvenir de la Shoah, à la défense des droits de l'homme et du peuple juif. Il mourut en 2005 à l'âge de 96 ans.
Anthony, en quoi cette traque a-t-elle contribué à faire progresser le travail de mémoire ?
Oui, donc cette chasse aux nazis s'inscrit aussi dans un travail de mémoire. En effet, comme l'a dit tout à l'heure Valentin, d'une manière générale, cette traque a pour objectif de dire que tout crime ne restera jamais impuni. Wiesenthal déclara un jour, lorsqu'on l'interrogea sur cette chasse obsessionnelle, « Quand l'histoire fait un retour sur le passé, je veux que les gens sachent que les nazis n'ont pas tué des millions de personnes » et puis s'en tirer comme cela. Dans une interview de Serge Klarsfeld, donnée par la diffusion d'un film retraçant la traque des nazis, celui-ci parlait d'un processus de conservation de mémoire. En effet, la mémoire s'adresse principalement aux nouvelles générations. Il y a une évolution dans le devoir de mémoire. Les témoins et les acteurs ayant disparu, ou étant en passe de disparaître, le devoir de mémoire entre dans l'histoire. C'est donc aux institutions telles que les grands centres historiques relevant de la mémoire de la Shoah, créés à New York, Washington, Paris ou Berlin, de prendre le relais des individus, puisque désormais ce sont ces institutions qui détiennent cette mémoire. C'est maintenant aux nouvelles générations de maintenir cette mémoire. On peut dire que les objectifs mis en place à la chute du nazisme par les Klarsfeld et par Simon Wiesenthal ont porté leurs fruits, car on est passé d'un travail de mémoire individuel à une étatisation de la mémoire. En effet, des lois ont été mises en place concernant le négationnisme ou encore les actes antisémites. Au cours du temps, plus de 60 ans, la mémoire s'est inscrite dans tous les esprits. Il est maintenant indéniable que cette traque des nazis fut déterminante dans l'assimilation de la mémoire de la Shoah pour les générations actuelles et futures.
Venons-en justement au procès, une fois ces nazis arrêtés. Myriam, raconte-nous quand et comment s'est déroulé le procès de Klaus Barbie. Et qui était Klaus Barbie ?
Alors, Klaus Barbie était un officier SS. Il est né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg, dans la vallée du Rhin. Il s'engage dans les SS le 26 septembre 1935. Son rôle était d'arrêter les réfugiés politiques allemands installés aux Pays-Bas et les Juifs. Si vous connaissez un peu le journal d'Anne Frank, vous savez alors que c'est à cette époque que Anne Frank se cachait pour échapper justement aux rafles organisées par Klaus Barbie. À Lyon, il dirige la Gestapo, il dirige la région de Lyon, le Jura, les Hautes-Alpes, jusqu'à Grenoble. Dans Lyon, il organise la chasse aux Juifs, mais aussi la chasse aux résistants, qu'il torture après l'arrestation. Je vais tenter maintenant d'expliquer un peu comment s'est passée son arrestation. Alors, les principaux acteurs de son arrestation, c'était plutôt Serge et Bill Klarsfeld, qui ont joué un rôle très important. En 1971, les Klarsfeld réussissent à identifier Klaus Barbie, qui, à cette époque, est en Bolivie. Mais le pouvoir change là-bas et il est arrêté. Sa nationalité bolivienne lui est alors retirée et il est expulsé de la Bolivie vers la France. Donc, en attendant son procès, Klaus Barbie est détenu à la prison de Montluc, à Lyon. Le ministre de la Justice, Robert Badinter, a voulu l'envoyer là-bas car il dit, je cite, « Barbie doit être emprisonné là où il a sévi, couché là où il a torturé. Il sera jugé donc à Lyon pour mémoire. » En cherchant dans certains documents, on a donc appris que le procès de Klaus Barbie s'est ouvert devant la cour d'assises du Rhône en 1987. Les témoins présents sont Lise Lesèvre et Simone Lagrange, toutes deux déportées et torturées, et Julien Favet a aussi témoigné. Ce dernier avait assisté à l'arrestation des enfants. Il a confirmé la présence de Klaus Barbie sur les lieux. En effet, le jeudi 6 avril 1944, Klaus Barbie arrête les 44 enfants de la maison d'Izieux, dans l'Ain, à 80 km de Lyon. 9 jours plus tard, ces enfants sont brûlés dans les fours crématoires du camp d'Auschwitz. Au procès, le procureur général, Pierre Truche, demande à ce que Klaus Barbie soit reclus à vie. Malgré sa condamnation, Maître Vergès, son avocat, repose sur l'idée que tous les crimes contre l'humanité n'ont pas été punis de façon égale, et en partie les crimes du colonialisme. Donc je vais continuer en vous annonçant le verdict du jugement. La cour d'assises du Rhône a alors condamné Klaus Barbie à la réclusion criminelle à perpétuité. Au cours de sa plaidoirie, Maître Vergès, son avocat, a tenté de le défendre en disant qu'il n'était qu'un pion, sans état d'âme, et sans problème, sur un échiquier trop compliqué pour lui.
Malika et Katiba, racontez-nous quand et comment s'est déroulé maintenant le procès de Maurice Papon. Et qui était Maurice Papon ?
Donc l'affaire Maurice Papon a été très importante. Effectivement, c'est l'unique haut fonctionnaire français à être condamné de complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle dans la déportation des Juifs sous le régime de Vichy. Papon a été jugé coupable d'avoir ordonné l'arrestation de 1690 juifs, dont 200 enfants et des personnes âgées entre 1942 et 1944. La plupart de ces victimes ont été déportées à Auschwitz.
Maurice Papon est un homme qui a vécu énormément de choses dans sa vie. En effet, il a exercé des postes de grande importance avant d'avoir été accusé de crimes contre l'humanité. Il fut rédacteur au ministère de l'Intérieur en 1935. Il a été nommé sous-préfet, secrétaire général de préfecture de Gironde, préfet de Corse, préfet de Corse de Constantine, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ministère du budget. Sa carrière s'arrête d'un coup. En effet, le travail de mémoire contre Maurice Papon pour son rôle dans la déportation de Juifs sous l'occupation, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde, commença à partir de 1981.
Le 6 mai 1981, le Canard enchaîné publie des documents signés de la main de Maurice Papon tendant à prouver sa responsabilité dans la déportation de Juifs. C'est le 19 janvier 1983 que Maurice Papon est inculpé de crimes contre l'humanité.
Le procès de Maurice Papon constitue la plus longue des batailles juridiques françaises. Il est porteur de significations différentes pour les Français.
Je voudrais savoir en quoi ce procès a-t-il, selon vous, contribué à faire progresser le travail de mémoire, enfin ces procès plutôt, puisqu'il y a d'une part le procès Barbie et d'autre part le procès Papon.
Donc le procès de Klaus Barbie a permis de faire prendre conscience que malgré que ce jugement de ce meurtrier se soit déroulé assez tard, après cet événement, il a soulagé les familles et tous les autres. On se rend compte que ces crimes commis sont impardonnables et qu'ils ont été punis sévèrement. Donc ce devoir de mémoire est fait pour faire connaître le passé et susciter la réflexion sur le crime contre l'humanité et les circonstances qui l'engendrent.
Et vous, en ce qui concerne le procès Papon ?
Il y a une spécificité du procès Papon. Certes, il est intenté à un homme pour ce qu'il a fait, mais dans la mesure où Maurice Papon était un maillon assez subalterne de l'administration française, on juge aussi la responsabilité de l'administration de Vichy dans l'Holocauste. On ne juge pas un seul criminel en tant que criminel, comme ce fut le cas pour Barbie, mais on juge responsable toute l'administration française.
La remise en cause, la remise en liberté de Maurice Papon a été critiquée. La libération de Papon a été rendue possible par une nouvelle loi française du 4 mai 2002 qui prévoit que les prisonniers peuvent être libérés s'ils souffrent d'une maladie incurable ou si leur incarcération met en danger leur santé. La libération de Maurice Papon a été approuvée par l'ancien garde des Sceaux et ancien président du Conseil constitutionnel Robert Badinter.
La Légion d'honneur a aussi suscité des polémiques. De son vivant, sa Légion d'honneur posait problème. C'est encore le cas aujourd'hui. En 1999, un décret présidentiel lui avait interdit de la porter, mais Maurice Papon avait passé outre et était condamné pour cela en 2002. Son avocat, M. Weilemann, a indiqué son intention de veiller personnellement à ce que le défunt soit inhumé avec l'insigne qui lui avait été remis par le général de Gaulle.
Son procès est porteur de significations différentes pour les Français. Pour certains, il représentait une dernière chance de confrontation du peuple français avec son passé collaborationniste. Pour d'autres, il symbolisait le ravivement inutile de blessures anciennes et de facteurs de division. Maurice Papon a bénéficié de la défense brillante et offensive de l'avocat Jean-Marc Varou, mais par son attitude jugée arrogante et par son absence complète de regrets et de remords, Maurice Papon a renforcé les sentiments de haine de beaucoup.
Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, des non mauvais choix, de la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie, la chaleur des baisers et cette pluie qui coule, et de l'amour blessé et de tout ce qu'on nous roule. Alors souris. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend, de leurs signes de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde, du salaud de chasseur qui descend la colombe, de ce que t'étais belle et des rives arrachées, des années sans sommeil, 100 millions d'affamés, des portes qui se referment, de t'avoir vu pleurer, de la cour solennelle qui condamne sans scier. Alors souris. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Allez, vidons nos bières pour les voleurs des rues. Finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue. Et regarde ces squelettes, nous regarde de travers. Et ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il ne restera rien de nous, pas plus que d'eux. J'en mettrai bien ma main, coupée au feu. Alors souris. Et dans 150 ans, mon amour, toi et moi, on sera doucement dansant, deux oiseaux sur la croix. Dans ce bal déclassé, encore je vois large. Peut-être qu'on sera repassé dans un très prochain naufrage. Mais y a rien d'autre à dire. Je veux rien te faire croire, mon amour, j'aurai le mal de toi. Mais y a rien d'autre à dire, je veux rien te faire croire, mon amour, j'aurai le mal de toi. Mais que veux-tu?
Témoignages écrits, oraux, cinématographiques ou encore photographies nourrissent le travail des historiens, parfois rendu difficile à cause de falsificateurs de l'histoire. Venons-en aux difficultés rencontrées par les historiens. Yuiko et Eri, vous êtes en France pour un an. Présentez-nous la place accordée à l'étude de la Seconde Guerre mondiale et plus spécifiquement celle de la Shoah au Japon.
D'abord, on voudrait vous dire une chose. On a tout appris un peu à propos de la Shoah, mais on n'a pas appris exactement la même chose. Au Japon, les élèves commençaient à apprendre l'histoire du Japon et du monde en sixième. C'est un cours très général et simplifié. En cinquième, quatrième et troisième, il apprend histoire plus détaillée. Puis au lycée, il peut choisir entre l'histoire universelle, l'histoire japonaise ou la géographie. L'histoire universelle est obligatoire. Les cours d'histoire sont très simplifiés parce que tous les examens sont en forme de tableau chronologique. Il n'y a pas de commentaires rédigés.
La Shoah ne figure presque pas dans le cours d'histoire universelle. On peut trouver quelques images et environ 5 lignes de texte au sujet des Juifs et les victimes des persécutions dans le manuel d'histoire. Il n'y a presque aucune explication. Le cours au sujet de la Shoah dure à peu près une heure. C'est possible d'apprendre l'histoire de la Shoah en détail à l'université, mais il n'y a presque personne qui suit le cours. Ceci fait que les gens ne connaissent pas du tout ce qui s'est passé. Vous allez penser que les Japonais apprennent beaucoup d'histoire japonaise, mais ceci est faux. Nous ne savons pas pourquoi le système d'enseignement japonais est comme ça. Pour nous, ce manque d'histoire est une faiblesse du système d'enseignement.
Akiyuki, pourquoi d'après toi cette étude de la Shoah est-elle si rapide au Japon?
Beaucoup de gens posent cette question. Nous ne savons pas la réponse, mais nous avons quelques idées. Peut-être que nous préférons oublier toute la guerre. Comme nous n'étions pas de la bonne côté, peut-être que le gouvernement pense que l'histoire n'est pas si importante que les maths ou les sciences. Nous ne savons vraiment pas. Les gens ne comprennent pas qu'au Japon, les élèves apprennent. Et c'est tout. Ils ne se posent pas de questions.
Kate, tu es canadienne. Qu'en est-il au Canada?
Au Canada, l'étude de l'histoire est plus détaillée qu'au Japon, mais beaucoup moins qu'ici en France. Les élèves commencent à apprendre l'histoire quand ils sont très jeunes. Jusqu'au troisième, ils apprennent l'histoire du Canada. Ça veut dire qu'ils étudient les explorateurs, la colonisation, la vie et culture des Amérindiens, les tensions franco-anglais, les guerres, ce genre de choses. Ils apprennent aussi l'histoire des États-Unis. L'histoire de l'Europe est seulement apprise quand c'est nécessaire pour la compréhension du cours. L'apprentissage de la Shoah se passe en seconde. En fait, la Shoah fait partie du thème de la Deuxième Guerre mondiale. La Shoah n'est même pas un chapitre. En général, l'attitude est « Voilà, vous savez tout ce qui s'est passé, donc on ne va pas y passer longtemps. » On revoit les chiffres, les conditions de vie, la libération des camps. La Shoah est, en fait, quelque chose que tout le monde connaît. C'est d'ailleurs la grande différence avec le Japon, où les gens ne connaissent même pas les informations du base. Mais la connaissance de la Shoah n'est pas approfondie. Je pense qu'on ne passe pas beaucoup de temps sur la Shoah parce que la Deuxième Guerre mondiale était la guerre qui a lancé le Canada comme nation indépendante. Alors, on passe beaucoup de temps sur les batailles où les Canadiens se sont battus, comme Vimy. Une autre raison pour laquelle on n'étudie pas beaucoup la Shoah, c'est qu'on ne met pas beaucoup de valeur sur l'histoire, mais plutôt sur les maths, les sciences et les langues. Après la seconde, l'histoire n'est qu'une option. Le gouvernement essaie donc de mettre le plus d'informations possibles dans les programmes obligatoires. Ceci fait que les cours sur la Shoah et sur les autres événements similaires deviennent de plus en plus courts.
Priscilla, qu'appelle-t-on négationniste et révisionniste?
En fait, le terme négationnisme a été spécifiquement élaboré pour désigner un courant de pensée qui nie en fait le génocide pratiqué par les Allemands nazis, l'Allemagne nazie. En fait, c'est l'extermination des Juifs, des Tziganes, mais aussi des handicapés. Et mais il y a aussi l'existence des chambres à gaz pour l'extermination, mais aussi la volonté d'exterminer les Juifs d'Europe par les nazis. Ils disent que la réalité des crimes révèle des mythes, que ce n'est pas la réalité. En vrai, ça veut dire qu'il nie tout en bloc. Mais les négationnistes ont diverses motivations. En ce qui concerne le cas de la négation du génocide du peuple de Juifs commis par les nazis, elle apparaît comme être principalement l'antisémitisme. En France, il y a deux de ses principaux percusseurs qui sont Maurice Bardèche et Paul Racinier, ainsi que Robert Forisson, né le 25 janvier 1929, qui était un universitaire. En Allemagne, il y a German Rudolph, né en 1964, ainsi que Zis Christopher, né en 1918 et mort en 1997. Les chiffres utilisés résultent aussi du mensonge, puisqu'on est dans l'information purement fausse et simple. Par exemple, le nombre de victimes pour la Shoah a été en permanence revu à la baisse.
Le révisionnisme est une démarche critique consistant à réviser de manière rationnelle certaines opinions couramment admises en histoire, que ce soit par le grand public, le plus souvent, ou même par des historiens de profession non spécialistes de la période ou du domaine d'études considéré. Il se fonde sur un apport d'informations nouvelles, un réexamen des sources et propose une nouvelle interprétation, une réécriture de l'histoire. En bref, ils remettent tout en question. Ce révisionnisme apparaît souvent longtemps après les faits. Le révisionnisme tend à affirmer une autre vision du conflit.
Tu peux nous préciser comment a évolué la recherche historique ces dernières années sur la Shoah ?
Contrairement à ce qu'on pourrait faire croire, le débat lancé par les historiens négationnistes, le nombre de victimes de la Shoah a fait l'objet d'une estimation précise, environ 5,7 millions de victimes. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse et dépasser les 6 millions. En effet, la recherche historique récente, encore peu connue du grand public, met l'accent sur l'ampleur de la Shoah par balle, c'est-à-dire la mort par fusillade, qui, pour l'instant, est estimée à 2 millions. Ces morts par fusillade ont été faites entre 1941 et 1944 par les Einsatzgruppen, c'est-à-dire des unités de tuerie de la SS qui suivaient l'armée allemande en URSS et qui reçurent l'ordre de Himmler d'abattre tous les juifs qui leur tomberaient sous la main. Il faut ajouter à ces 2 millions les morts dans les ghettos et les camps de concentration de famine, de maladie et d'épuisement, soit environ 1 million de juifs, et les morts dans les centres d'extermination et lors des marches de la mort de 1944-45, soit 3 millions de juifs.
Et pourquoi l'histoire est-elle une science essentielle au travail de mémoire, Priscilla ?
L'histoire est une science parce que les historiens sont des chercheurs, mais ils essaient aussi de comprendre la complexité de ce qui s'est passé en étudiant les détails et les contradictions de la réalité. Elle sert à comprendre le passé. Elle recherche aussi à étudier les aspects de la réalité du passé. Elle aboutit à des travaux scientifiques, des thèses, des livres d'histoire, des manuels scolaires. L'histoire ne juge pas, elle décrit, elle explique le passé. L'histoire est indispensable pour comprendre le passé. La mémoire, elle est collective, c'est une affaire citoyenne. Elle sert à comprendre le présent et à réagir sur la réalité du moment. Elle aboutit à des commémorations, à des journées de souvenirs, à des moments collectifs de la vie d'un pays ou d'une communauté. La mémoire a besoin de l'histoire car elle doit reposer sur des faits établis, sinon elle s'agirait de rumeurs plus que de mémoire. La mémoire est indispensable pour construire le présent.
Le devoir de mémoire est un devoir de citoyen. Le travail de mémoire ne peut être mené sans connaissance historique. Leur acquisition s'est faite en cours, mais aussi par un travail aux archives départementales, au mémorial de la Shoah et lors de la visite du camp d'Auschwitz-Birkenau. Parallèlement, il me semble que les travaux de recherche sur les mémoires de la Shoah menés au CDI, ainsi que les rencontres avec des témoins ou des écrivains, ont indéniablement nourri les connaissances historiques des élèves et suscité leur intérêt pour le sujet. Histoire et mémoire se complètent et sont indispensables à la construction du savoir. Merci à tous ceux qui ont permis de mener à bien ce projet, notamment à Radio Campus, et félicitations aux élèves pour leur travail.
Замочки мои нутраненькие, с тобой говорить буду.